Bézat Hachem et Erev Tov à tous. Nous allons aujourd'hui parler des trois semaines entre la date du 17 Tammuz et la date du 9 Av. Ces trois semaines s'appellent en hébreu Yemei Ben Hametzarim, les jours qui sont entre les étroitesses. Meïtar, c'est une prison, c'est-à-dire qu'il y a Bein HaMetzarim, c'est comme s'il y avait donc deux prisons. Les deux prisons, donc, c'est le 17 Tammuz, et la deuxième prison, c'est le 9 Av. La plupart d'entre nous, nous jeûnons à ces deux dates pour la destruction du temple. Le problème, c'est que la destruction du temple n'est que le résultat de quelque chose d'autre, ce qui fait que la plupart d'entre nous jeûnons sans savoir pourquoi on jeûne. Comme la plupart des gens, on s'adresse et on s'attache aux résultats sans connaître les causes. Et si on ne connaît pas les causes, c'est pas que ça sert à rien de jeûner, mais c'est pas véritablement le sens du jeûne. Et malheureusement, on a éduqué génération après génération, et vous demandez à n'importe qui pourquoi vous jeûnez, vous allez me dire parce que le temple a été détruit. Mais le temple a été détruit, il n'a même pas été détruit. Dieu dit que le temple était détruit avant d'être détruit. C'est-à-dire que même ceux qui ont détruit le temple l'ont brûlé, ont brûlé un temple qui était déjà brûlé, déjà détruit.
C'est-à-dire l'intention était.
Tout à fait, ça veut dire que, pas seulement l'intention, ça veut dire que vous-même, vous avez déjà détruit le temple avant qu'il ne soit détruit par Titus. Et donc on ne comprend pas quel est le sens. Alors le sens, il est très simple. Mais comme d'habitude, on oublie les racines. Et chaque fois que nous avons un problème, nous ne savons pas soigner le problème à la source, nous soignons la plaie. La plaie, c'est déjà en fait l'expression du mal. Mais le sens profond du mal, il est beaucoup plus à l'intérieur. Et la Torah ne cache pas, en fait. Elle nous dit exactement ce qui s'est passé à ces deux dates. Donc ces deux dates s'appellent Metzar. Il y a un Metzar, une prison 17 Tammuz, il y a une deuxième prison 9 Av. Et entre les deux, nous avons trois semaines. Alors effectivement, nous sommes là à nous lamenter, à pleurer, et généralement à parler de la destruction de Jérusalem, de Beth Amikdash, le premier, le deuxième. Mais d'où c'est venu tout ça? Mais c'est venu tout simplement de deux faits qui se sont passés durant la sortie d'Égypte, entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël. Ces deux faits sont très simples, mais très graves. Et ce sont les causes profondes de ce malaise. Le premier fait, c'est que le 17 Tammuz, celui que nous avons déjà dépassé, vous avez déjà peut-être même jeûné ce jour-là, et vous ne saviez même peut-être pas pourquoi vous avez jeûné. C'est encore pire. C'est-à-dire, vous jeûnez parce que c'est écrit dans le calendrier. Ah, le 17 Tammuz, on doit jeûner. Mais c'est quoi? Mais le 17 Tammuz, c'était un jour de joie. C'était le jour où Dieu devait, dans l'initiale, donner la Torah gravée dans la matière, c'est-à-dire les paroles de l'infini gravées dans de la matière. C'est extraordinaire, c'est un jour qui fait le lien entre les mondes. C'est un jour où les valeurs de l'infini, de l'absolu, descendent dans notre univers. Alors, effectivement, ça a pris la forme du don des tables. Mais qu'est-ce que c'est que ces tables? Ce sont des louchot, louach, louach, c'est un panneau. Mais ce louach-là, c'est de la matière. Donc si Dieu grave sa parole, sa pensée dans de la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un jour qui est capable de faire le lien entre l'esprit et la matière. Comment vous voulez que la matière soit gravée d'une certaine intention divine? Ça veut dire que ce jour-là est extraordinaire dans sa racine. Alors pourquoi tu pleures? Eh bien, tu pleures parce que, au lieu de recevoir et d'accepter que les valeurs de l'infini soient gravées dans la matière de ta vie, toi tu as préféré rester dans la matière sans ce degré de l'esprit qui soit gravé à l'intérieur. Ça t'embête. C'est trop difficile pour toi que les valeurs de l'infini viennent t'embêter, entre guillemets, dans ta vie, dans ton petit monde. Tu vis dans certaines habitudes et t'as pas envie que la droiture divine avec des valeurs qui apparemment te dépassent vienne te forcer à faire certaines choses. Tout simplement parce que t'as oublié que ces valeurs de l'infini, c'est ta nature. Donc tu t'es éloigné de ta propre nature, à tel point que tu connais même plus ta nature. Et tu fais des choses antinaturelles, alors que tu repousses les choses qui sont complètement liées à ta nature. Voilà notre maladie. Donc le 17 Tammuz, qu'est-ce qu'on a fait pendant que Dieu donne cette valeur divine gravée dans la matière? On fait un vaudor. En même temps. Et la Gemara est tellement précise qu'elle nous dit qu'au moment où Dieu donne à Moshe les tables, c'est-à-dire il y a un passage entre l'absolu et l'humain, au même moment, en bas, c'est-à-dire caméra inférieure, il y a deux caméras, une qui regarde ce qui se passe en haut, une qui regarde ce qui se passe en bas. Au même moment, ici, on n'arrive pas à contenir cette valeur-là, et on préfère rester dans un monde circulaire, qui lui est lié à la nature étant circulaire. En hébreu, Teva, Tabat, donc Treta Egel, Igoul, un cercle. On préfère rester dans un monde circulaire qui tourne en rond plutôt que d'avoir une certaine direction de vie qui est le sens véritable de notre venue sur Terre d'une manière générale et de la création de tout l'univers.
Excuse-moi, est-ce que donc le peuple juif a renoncé délibérément à ça ou bien il ne savait pas à quoi s'attendre et il a fait une faute d'empoisonnement?
Ne pas
accepter. Je savais qu'il allait, que ça allait se passer.
C'est toujours
je n'arrive
ça.
Pas à concevoir que cette grave erreur a été faite.
Cette grave erreur ne s'est pas faite une fois dans l'histoire. Elle se fait tous les jours. À chaque fois qu'il y a une valeur réelle qui doit nous arriver, à chaque fois que nous faisons quelque chose qui est inverse à cette valeur, c'est comme si on préférait faire un petit veau, notre petit veau d'or à nous, privé, à la place de la valeur qui nous est donnée. Donc c'est quelque chose qui en fait place l'intellect humain avant les valeurs de l'absolu. C'est encore une fois en filigrane la faute du premier homme. C'est-à-dire que le Eitz Hadaat, l'arbre de la connaissance, dépasse l'arbre de la vie, pour nous en tout cas. On se dit ça c'est pas logique, je préfère être dans la logique humaine, même si elle est complètement confinée, même si elle est complètement sclérosée, même si elle est complètement petite, plutôt que d'avoir des valeurs de l'infini qui nous dépassent complètement. Ce que tu ne sais pas, c'est que ces valeurs de l'infini sont fabriquées pour ta nature, alors que tes valeurs à toi, que toi tu crois être des valeurs, sont des valeurs limitées dans le temps, elles passent aujourd'hui ce qui est bon aujourd'hui, dans 50 ans on va dire que c'était une grande catastrophe. Comme tout ce que vous avez mangé jusqu'à aujourd'hui, tous les deux jours on vous dit ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux, ah la banane, oh je suis là. Dans 50 ans, on va vous dire que c'était le plus grand poison du monde. Et ça change tout le temps, quoi. Ça, c'est les valeurs humaines. C'est-à-dire, on est dans un monde aléatoire, d'un haut et d'un bas. Comme la sinusoïde de notre cœur. Quand vous allez chez le médecin, vous voyez votre monde qui est en réalité comme ça. Il monte, il passe par zéro, il redescend, il monte, il passe... Toute la vie est comme ça. Et paradoxalement parlant, quand t'en es déjà parti de l'autre côté, alors la sinusoïde est rectiligne, c'est-à-dire elle est droite, il n'y a plus de changement. C'est-à-dire qu'on a touché en fait la valeur de l'absolu. C'est dommage de toucher la valeur de l'absolu seulement après la mort. Et c'est ça que le judaïsme. Le judaïsme te dit que tu peux arriver à être dans cette valeur de l'absolu, censé monter et descendre en dents de scie, tout en étant dans ce monde. Et ça, c'est la valeur de la Torah. Car la Torah, c'est le rectiligne. C'est le souvenir de ce qui est droit, dans tous les sens du terme. C'est le souvenir de ce qui est véritablement un sens. Ça, c'est ce qu'on appelle le yosher. Même dans la Kabbalah, il y a une notion de yosher qui est extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, qui sort de la nature dans laquelle nous sommes, qui est complètement dans le cercle. Et puis on ne sait pas lier la droite au cercle. On est dans un monde qui en réalité ne trouve pas son sens. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que lorsque une femme se marie avec un homme, c'est l'union entre ces deux formes. C'est-à-dire que la femme rappelle à l'homme que cet homme est censé lui porter à la maison. L'homme est censé porter à la maison la rectiligne, la droite. C'est pour ça qu'il est censé apporter à la maison la Torah. Et la femme est censée apporter à la maison la nature, le monde. Et ensemble, lui, il lui donne la bague et elle, lui donne le doigt. Elle lui dit, c'est toi le doigt, c'est toi qui dois donner le droit. Et lui, il lui dit, tiens, ça c'est pour toi, c'est toi qui dois donner le cercle. Et ensemble, on va construire quelque chose qui est de l'ordre de Igulin Veyosher, qui est une notion de Kabbalah énorme, qui fait le lien entre la droite et le monde circulaire, sans annuler ni l'un ni l'autre. Et c'est pour ça qu'on ne tue pas, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'enterrer ni une vie de garçon, ni une vie de jeune fille. Ça ne veut rien dire tout ça. Ça veut dire qu'on est en train de construire un monde qui est enfin un véritable monde. Et ça, ce mariage-là, se fait en fait dans le don de la Torah. Et ce Yosher-là, qui était censé arriver, nous arriver, comme le mariage, et nous devions offrir le cercle, eh bien on a refusé en fait le doigt, on a refusé le rectiligne, et on a préféré rester dans un monde circulaire. C'est-à-dire qu'on est resté une femme sans homme.
Ce qu'il raconte, il dit la joie, c'est qui vous, la direction.
Direction. Il y a un début, il y a un sens de la vie.
La direction.
D'accord. Alors le 17 Tammuz.
En fait, excuse-moi, sur la droite, c'est le doigt de la femme ou c'est le doigt?
Non, c'est la femme qui rappelle à l'homme. Elle lui dit, toi tu es censé me donner ça. Alors elle pointe son doigt vers l'homme. Et l'homme lui dit, si moi je te donne en réalité le droit chemin par la Torah, que je vais étudier, que je suis censé apporter à la maison, toi, par contre, tu dois me donner la nature. Je dois avoir, moi, un ustensile dans lequel je vais me révéler. Et donc, l'ustensile dans lequel je vais me révéler, c'est le cercle. Donc, la femme, par nature, est circulaire, alors que l'homme, par nature, est rectiligne. Circulaire et rectiligne. Et c'est pour ça que notre rapport à l'infini est le même rapport. Alors, nous tous, nous sommes une femme par rapport à Kadosh Baruch Hu qui est l'homme. Donc lui nous donne la droite de la Torah, et c'est pour ça qu'il nous appelle Yachar, la droite. Israël, c'est Yachar, elle. Et nous, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne la nature, c'est-à-dire on est dans le monde du Teva, de la Taba. Taba, c'est la base. Teva, c'est la nature, c'est la même chose. Et donc tout ce sens-là...
On dit que la femme, c'est la Bina.
Non,
c'est
là, non, j'ai pas dit le contraire. La femme, c'est... elle a reçu une Bina éthérante. Pas que c'est la Bina. Elle a reçu un degré de Bina. Mais c'est toujours féminin, la Bina. C'est pas masculin. Donc même la Bina est encore circulaire. Parce que toute femme est circulaire. Le monde féminin est par définition un cercle. Et il n'y a pas dans ce monde une ligne droite, ça n'existe pas dans la nature. Dans le cosmos, vous ne trouverez jamais une ligne droite véritable. La seule droite de ce monde, c'est en réalité quelque chose de l'ordre de l'esprit, c'est la Torah.
Quand tu dis
c'est Israël.
C'est particulier, tu veux dire la relativité?
Je parle de tout, d'un mouvement. Je parle d'une forme.
Traduis le mot circulaire.
Circulaire, ça veut dire le temps, ça veut dire l'espace. Ça veut dire l'homme. Ça veut dire, c'est un cercle qui revient. Un cycle. C'est ça? De quoi? La femme est circulaire. La vie qui est complètement circulaire. Notre vie, elle est circulaire. Elle est liée au temps, elle est liée à l'espace, elle est liée. Il n'y a pas une seule forme rectiligne dans ce monde. Comment je fais? Donc, pour que ce soit avec une rectiligne, je dois me référer aux valeurs de l'infini. C'est la seule rectiligne qui existe dans notre monde. C'est-à-dire la Torah et Yachar, c'est tout. Ça veut dire que si vous êtes Israël et que vous n'étudiez pas la Torah, vous n'êtes pas assez dans cette étude, que vous ne comprenez pas en réalité, que vous passez votre temps à d'autres choses, vous restez dans un monde circulaire. C'est-à-dire, le philosophe, le plus grand soit-il, est toujours dans un monde circulaire, il n'a pas des valeurs de droite, il ne peut pas. Les valeurs de la droite ne viennent que dans la Torah. C'est le seul yosher qui existe.
Je trouve ça très difficile. Yes. Excuse-moi. Tu veux dire que les deux sont complémentaires?
Oui. J'ai dit ça, je n'ai rien dit d'autre. C'est-à-dire qu'il y a en réalité, ici, un mariage à ne jamais gâcher entre ce que je suis et entre ce que je dois remplir le monde dans lequel je suis. Si vous avez une maison, votre maison est circulaire par nature. Si vous n'introduisez pas de la Torah dans votre maison va être morte. Elle sera un cercle sans aucun sens. Et si vous ne donnez pas un sens à un cercle, le cercle reste plat comme un disque. Alors que si je donne un sens au cercle, il devient spirale. Et il monte. Il reste cercle, mais il est toujours à un étage supérieur. Donc à chaque fois que vous êtes dans une fête, même si vous avez déjà vécu cette fête l'année d'avant, ce n'est plus au même étage. Le Rosh Hashanah de l'année dernière était sur le premier disque, mais maintenant j'ai une spirale, je suis monté à un autre degré, c'est un autre Rosh Hashanah. Ce n'est pas le même, parce qu'on avance dans tout, c'est un sens. Et si tu n'as pas de sens dans ta vie, tu es mort parce que tu es un disque plat qui en réalité tourne autour de lui-même pour se manger la queue. Et il meurt. Et ça, c'est le 17 Tammuz. Remarquez que dans le chiffre 17, nous sommes dans le 1 vis-à-vis du 7. Le 1, c'est justement cette droite, et le 7, c'est la nature circulaire. Donc ça fait 8. Ça, c'était la première prison. Je résume ce que je viens de dire. Ben Ametzarim, entre les deux prisons, 3 semaines. Première prison, le 17 Tammuz. C'est-à-dire, Dieu nous donne l'essence de la vie, elle apostrophe, l'essence de la vie, le sens de la vie, et nous on le refuse. On préfère rester dans un monde circulaire, naturel, sans rectiligne. Donc, plus facile, le rectiligne qui descend malgré tout, se brise. C'est ce qu'on appelle la brisure des tables. Ok ? Plus tard dans l'histoire, il va y avoir ce jour-là quoi ? L'encerclement de la ville de Jérusalem. Alors maintenant vous voyez pourquoi? Parce que tu as choisi de rester en fait encerclé dans un monde fermé. Moralité, tu n'as plus de sens, ta vie n'a plus de sens. Même ta ville qui est censée faire le lien entre les mondes est bloquée dans un matzo, ce qu'on appelle dans un étranglement. Je passe au 9 av. Le même problème, différent. Mais c'est la même chose. Le jour qui devait être la plus grande fête du calendrier, le 9 av. D'ailleurs, même dans la Megillah que nous lisons pendant Tisha B'Av, la Megillah de Eicha, on appelle ce jour-là Moed. C'est écrit Moed, c'est-à-dire un jour de fête. Mais quelle fête? Eh bien, ça devait être la fête de l'entrée en terre d'Israël. C'était le 9 av. Si les explorateurs qui avaient regardé la terre étaient revenus avec une autre conclusion, disant que voilà, il y a un sens à notre vie. On est sorti d'Égypte pour justement trouver la rectiligne. Il y a un sens, on doit rentrer sur cette terre parce que c'est seulement sur cette terre qu'on peut réaliser véritablement ce que l'infini et les valeurs de l'infini nous demandent. Non, moi je préfère rester encore une fois dans le désert. Tout à l'heure c'était dans le monde circulaire. Là aussi c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans? On a tourné. On a tourné en rond. C'est la même faute sous un autre angle. Au lieu de trouver le Yosher, et c'est pas par hasard que cette terre s'appelle aussi Yachar, Israël, Yachar El, eh bien ça préférait en réalité l'exil. Et jusqu'à aujourd'hui cette faute se perpétue puisque vous avez encore des communautés qui préfèrent rester dans le cercle des nations et non pas dans la rectiligne d'Israël. En croyant qu'en faisant la Torah à Paris, t'es tranquille. C'est n'importe quoi. Alors moi, ce qui me tue, c'est de continuer de fêter, entre guillemets, ou de marquer, entre guillemets, cette journée du 17 Tammuz et du 9 av, alors que tu continues la même faute. À quoi tu joues? De qui tu te moques? La faute du 9 Av, c'est pas la destruction du temple. C'est parce que tu as refusé de rentrer sur la terre d'Israël. Aujourd'hui, tu fais la même chose. Alors pourquoi tu jeûnes? Je comprends pas. Tu n'as même pas l'intention de venir pour l'instant. De quoi tu parles donc? Dieu te demande de venir, toi tu es là-bas, et tu pleures parce qu'il y a une destruction du temple, parce que tes anciens grands-parents n'ont pas voulu venir eux aussi. Hein.
Quoi?
Alors c'est de la religion.
Alors il n'y a pas de religion.
Il y a fait. Alors, en réalité, tout ça c'est de la religion. Alors que la Torah ce n'est pas une religion. La Torah c'est tout sauf une religion. C'est une nation sur sa terre. Et le Sifri pose la question, alors ça sert à rien de faire les mitzvot en dehors d'Israël? Et le Sifri dit oui. C'est choquant. C'est choquant, il dit oui. Alors il pose la question, mais alors pourquoi on fait quand même les mitzvot? Il dit parce que tu risques d'oublier. Et comme tu es malheureux, on te laisse faire les mitzvot. Mais en réalité, ça n'a pas de sens. Dans tous les sens du terme, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de direction. Tu es devenu religieux, tu fais des actes. C'est pas ce que Dieu t'a demandé. Dieu t'a pas demandé de mettre des tefillines. Il t'a demandé de mettre des tefillines sur ta terre. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui se passe quand tu fais cette mitzvah ici. Alors je dois continuer de les mettre là-bas pour ne pas oublier parce qu'un jour je vais revenir.
C'est-à-dire que c'est la solidarité qui est importante.
C'est pas seulement la solidarité, on peut être des communautés napoléoniennes en France. On est solidaires, c'est pas ça. C'est que l'endroit, le lieu, a autant d'importance que la qualité de l'âme collective que nous représentons. C'est-à-dire que Dieu a créé tout en trois degrés. Un lieu, une qualité d'âme et un temps. Et si tu ne relis pas ces trois degrés, eh bien tu rates. C'est comme observer le Shabbat au niveau du temps. Alors il est des gens qui observent le Shabbat au niveau du temps, certes. Mais en n'étant pas sur la terre d'Israël, tu n'observes pas le Shabbat au niveau de la terre. Vous comprenez?
Est-ce que tout ça...
Le Shabbat, c'est pas seulement un jour.
Et alors, quand on est à l'étranger, on ne fait pas de religion, on ne fait pas de fête, on ne célèbre rien.
C'est ce que je suis en train de dire. La véritable sens du judaïsme, c'est la terre. Dieu n'a pas dit à Abraham, Avinu, mon cher Abraham, je veux que tu sois un homme religieux, que tu fasses la religion, que tu manges des matzot à festa, que tu mettes des tefillines à Oukhazim. Il n'a jamais dit une chose pareille. Il a dit, je veux que tu prennes tes affaires et que tu dégages ici. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout. Et là-bas, je ferai de toi une nation. Le problème, c'est qu'on a traduit, qu'on a trahi, en réalité, la parole divine en ce qui nous arrange à nous. Alors que tu ne puisses pas venir, c'est autre chose. Mais ne transforme pas le judaïsme en religion. Ça n'a jamais été une religion. Une religion, ça se fait n'importe où. Le judaïsme, ça ne peut pas se faire n'importe où. On n'est pas une religion. Sinon, la Torah ne se fatiguerait pas de nous donner sans arrêt les frontières de cette terre dans laquelle on doit remplir notre rôle. Elle est à Koukim et à Mishpatim. Je vous cite des versets. Dans Dvarim 30, chapitre 30, je ne vous invente pas, c'est les paroles divines. Voici les préceptes et les lois que je vous donne. Asher yaaseh Adam bekere ba'aret, ce que tu devras faire sur la terre. Je parle l'hébreu. Je sais que c'est de l'hébreu pour vous, mais c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Il ne nous demande pas autre chose. Donc il faut arrêter de mentir et de tromper ses enfants en leur disant quelque chose que tu ne sais pas, que tu as un manque d'études. Tout simplement, ça y est, il y a un manque d'études. Moralité, je reviens. Tisha B'Av, c'est pas la destruction du temple. La destruction du temple, c'est une conséquence de ce que tu n'as pas compris. C'est-à-dire, pourquoi le temple est détruit? Parce que tu as décidé de rester en dehors de la terre d'Israël. C'est pour ça que tu as toi-même détruit ton temple.
Excuse-moi, je voudrais poser la question, c'est important. Est-ce que ce qui s'est passé en connaissance de cause ou par ignorance? Est-ce qu'on peut véritablement blâmer?
Je ne suis pas en train de blâmer, je suis en train d'expliquer ce qui s'est passé.
Je ne te juge pas, mais je veux savoir, est-ce qu'ils ont fait ces fautes en connaissance de cause, parce que c'est passé deux fois, ou c'est
Le Zohar nous dit des choses très graves. Le Zohar nous dit que la faute des explorateurs d'avoir refusé de monter sur la terre d'Israël, c'était pour continuer à faire sa religion à Paris. Comme ça dit le Zohar. Bien sûr, il ne dit pas Paris, hein. Il dit dans le désert. C'est la même chose. Et il dit que ces gens-là étaient très grands. C'était des rabbins, ils avaient peur de perdre leur place. Comme ça dit le Zohar, Rabotai. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est terrible. Alors, c'est sûr qu'on ne le dit pas, c'est pas très éducatif. Mais, j'ai plus le temps. La vérité, j'ai plus le temps. Je vous dis les choses telles que le Zohar le dit. Ça suffit de caresser les gens dans le sens du poil. Faut arrêter de faire de la religion. La Torah, ce n'est pas une religion. La Torah, c'est un code cosmique qui a été donné à une nation qui a été créée pour venir sur sa terre et dévoiler les valeurs de l'infini à l'univers tout entier, à l'humanité tout entière. C'est tout. C'est tout. Et toutes les mitzvot que nous faisons, ce sont des mitzvot qui sont en réalité des mitzvot qui appartiennent à la nation sur sa terre. C'est pas des mitzvot comme ça, en l'air. Et c'est sur la terre qu'elles prennent leur sens, qu'elles prennent leur puissance. Et tout ceci, en réalité, il faut commencer à bien le comprendre. Alors, nous sommes dans ces 3 semaines. Là, je suis debout devant vous, on est en plein milieu de ces 2 prisons. 17 Tammuz qu'on avait passé, 9 Av bientôt. Et est-ce qu'on a corrigé les choses? Est-ce qu'on a corrigé? Il y a fait. Alors, certaines choses, on les a corrigées, c'est vrai. D'autres choses, pas encore. Mais c'est ça le sens des choses. C'est-à-dire que si je ne comprends pas l'importance de ma nation sur ma terre, sur sa terre, je ne comprends pas l'importance du temple à Jérusalem. Pourquoi le temple doit être à Jérusalem et pas à Nice? Pourquoi il ne peut pas être ailleurs, le temple? Pourquoi? Parce que Dieu a choisi cet endroit. Alors il faut que je comprenne bien qu'il y a un endroit choisi par Dieu. Si Dieu avait choisi que ce soit une religion, c'est important, où être le Beth Amikdash? Non, c'est une valeur spirituelle. Non. Alors, qu'est-ce que c'est que le Beth Amikdash? Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, je reprends une Gemara. Gemara dans le traité de Khadiga, à la page 12, deuxième page. Resh Lakish nous dit qu'il y a 7 cieux. Vous connaissez les 7 cieux, tout le monde parle du 7e ciel, machin, d'où ça vient tout ça? C'est du judaïsme, Rabotai. Si vous étudiez la Gemara, si vous étudiez la Torah, si vous étudiez la Mishnah, je vous garantis que vous auriez beaucoup plus d'informations que tous les livres que vous passez entre vos mains. Car toutes les racines des expressions que vous utilisez sont à l'intérieur de ça. Ces 7 cieux. Pourquoi il faut 7 cieux? C'est quoi 7 cieux? Eh bien, ce sont 7 mondes. Qu'est-ce que ça veut dire, 7 mondes? Eh bien, 7 valeurs. Elles sont où, ces valeurs? Elles sont pas ici. Elles sont dans un monde de la réflexion. Elles sont dans le monde de la pensée. Ces univers sont dans le monde des idéaux. Que je dois traduire un jour, dans ma vie, d'ici. Donc je dois faire de ces 7 cieux, quoi? Une terre. Je dois prendre chaque ciel et le traduire sur la terre. Mais il faut que je sache ce qui se trouve dans ces 7 cieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 7 cieux? Vous les connaissez, ces 7 cieux? Première des questions. Alors, le premier ciel s'appelle Vilon. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça va être très long. Mais c'est important de le savoir. Vilon, vous avez vu ça, un rideau. C'est-à-dire, le premier ciel, après notre terre, ça s'appelle un rideau. Mais il y a un secret dans ce ciel. Alors, je le dépasse parce que c'est pas mon chiour maintenant. Après lui, il y a un autre ciel. Il s'appelle Rakia. Qu'est-ce que c'est que Rakia? Encore 1 degré. Troisième ciel s'appelle Shrakim. Rakia veut dire tisser. Il y a des choses qui se tissent. Il y a quoi? Roka Haaret Alamay. Troisième pièce s'appelle Shchakim. Lishchok. Lishchok en hébreu, c'est gratter et piler. Et d'ailleurs, ils disent les Chachamim, c'est là-bas qu'on fait la manne. Là-bas est fabriquée la manne qu'on mangeait dans le désert. Après Shchakim, il y a un ciel qui s'appelle Zvoul. Vous avez déjà entendu parler de ce ciel? Zvoul. C'est dommage parce que c'est là-bas que se trouve la Jérusalem céleste. C'est là-bas que se trouve le Bétamigdash d'en haut. C'est là-bas que se trouve l'autel des sacrifices. C'est là-bas que se trouve Michael, l'ange Michael, qui met en misbère toutes les Neshamot des Tzadikim. Vous voyez, toutes les connaissances qui nous manquent. Après Zvoul, nous avons un autre raquette qui s'appelle Mahon. Après Mahon, nous avons un autre raquette qui s'appelle Mahon. Et après Mahon, nous avons le dernier, le septième ciel, qui s'appelle Arabot. Mais vous les lisez, ces cieux-là, le jour de Yom HaKippourim. Les Sochen Arabot, les Mahon. Vous lisez, les gens sont L'ambiance. Mais c'est important tout ça. Alors on utilise tous ces noms-là, vous les entendez. Mais vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Comment est-ce possible, moi je me pose la question, je ne vous la pose pas à vous, je ne suis pas con. Je me pose à moi, comment est-ce possible qu'un homme qui soit né d'une maman juive ne connaisse pas la racine de son peuple? Comment est-ce possible que j'ai 50 ans que je ne connais pas encore une Gemara? Est-ce possible? Ça, est-ce normal? Par contre, tous les livres extérieurs, ah, les champions du monde, hein? C'est normal, ça. Je vous pose la question. Voilà la destruction du temple, Rabotai. C'est ça, la destruction du temple. Vous savez pourquoi le temple n'est pas reconstruit aujourd'hui? Parce qu'il nous manque même pas. On sait même pas ce que c'était. On sait même pas ce qu'il nous manque. Si tu ne sais pas ce qui te manque, comment tu peux le languir? Tu n'as même pas touché, tu sais pourquoi tu n'as pas touché, tu n'as même pas étudié, tu ne sais même pas de quel matériau il est fabriqué, tu ne sais même pas la grandeur, tu ne sais même pas ce qui se passe, comment on rentre à l'intérieur? Par contre, l'acropolis, machin, je connais par cœur, hein? C'est terrible. Et tout ça, c'est la destruction du temple. Alors à quoi ça sert de pleurer, dites-moi? C'est quoi, c'est des larmes de crocodile? Ça sert à quoi de faire semblant de dire à Kadosh Baruch Hu, ah, on se met par terre, on allume une bougie, une cité ou d'Amarseguet, tout ça c'est rien que des coutumes. Là on est champion du monde, hein. Vous savez ce qu'il faut pas manger, le dernier repas avant le jeûne, le machin, ça c'est bien ça. Pourquoi? T'as oublié que ce jour-là c'est pas seulement la destruction du temps, t'as oublié que t'as oublié. Que t'es devenu petit. Que t'es devenu étriqué. Que tu n'as même plus l'engouement des grandes choses. Tellement tu es devenu petit dans ta vie. Tout est devenu petit. C'est pas ça le peuple d'Israël. On est une nation grande. Ve'esra l'égoï gadol. Alors on a même réussi à nous embrouiller. Ça sert à rien parce que c'est de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil, c'est de reconnaître sa place. Ça, c'est le véritable sens de la vie. Quelqu'un qui ne veut pas prendre sa place parce qu'il se dit que c'est de l'orgueil, c'est faux. C'est un faux prétexte parce qu'il ne veut pas prendre responsabilité à jouer son véritable rôle dans le monde. Et ça, c'est en réalité tout le mal qu'on a aujourd'hui. Alors à quoi ça sert de jouer? Je comprends pas, je parle clairement, je vous parle du fond de mon cœur. À quoi ça sert de jouer? Dites-moi que je suis pas là. Dans le langage de la Kabbalah.
Écoute, Joël, moi je connais l'excuse. À quoi ça sert de jouer? C'est faute de mieux, parce qu'on ne sait pas mieux.
C'est ça. Alors maintenant, on doit étudier pour avoir le mieux. On doit savoir. Quel? Cours de Gemara pour femmes, ça existe? Il y en a plein de partout. Il y en a plein. C'est pas une Gemara au niveau d'Ilkhati, c'est une Gemara au niveau Agad et ça. La femme ne doit pas étudier la Gemara au niveau d'Ilkhati, ça ne lui sert à rien. faut qu'elle étudie la Gemara au niveau de Agad et Tov, c'est-à-dire de l'esprit, des respirations qu'il y a entre les feuilles de Gemara au niveau de la Halakha. C'est encore un autre sujet. Qu'est-ce? Ah, ce sont des traductions, je ne veux pas les donner maintenant parce que je trahirai le véritable sens. Mais le mot Ma'on, par exemple, veut dire un endroit intime. Par exemple, dans le corps de la femme, la partie en question s'appelle Ma'on. Aussi. Donc, je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est énorme. À chaque fois, j'ouvre une porte à un monde entier. Ma'on veut dire en réalité quelque chose sur lequel on peut édifier quelque chose. Du mot Lehachin, Mechona. Donc le mot Ma'on. Aravot, c'est un degré qui est dans la Arava. Ma'arava, c'est-à-dire Eret Israël, ça veut dire c'est plein de notions. Donc c'est sans arrêt, c'est sans cesse, c'est un monde énorme, 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 énorme. Il y a un livre qui explique ça, mais même le livre en question est un livre du Rav Kook qui s'appelle El Aya, qui explique ces Gemarot, mais qui est dans un langage tellement élevé en hébreu qu'il est même difficile de pénétrer même dans ce texte-là. Il y a le Ben Ishraï, Alav Shalom, qui a fait Ben Yehoyada sur ces Gemarot-là, et qui donne un sens extraordinaire aussi à toutes ces notions-là. Il faut étudier, bien entendu.
Ce que nous on a appris dans notre jeunesse, okay, la destruction du temps,
d'accord,
vient de Sinat.
D'accord.
Je ne t'ai pas entendu dire ça.
D'accord. Sinat Khinam, c'est pas seulement se haïr mutuellement. Sinat Khinam, c'est la haine du Khinam. Du Khinam. C'est qui le Khinam? Vous comprenez comment vous traduisez les choses? Sinat Khinam, c'est-à-dire que je fais pour rien.
La haine gratuite.
D'accord, la haine gratuite, non. C'est la haine du gratuit.
Ça, je ne comprends pas.
Mais parce que tu ne parles pas l'hébreu. Sinat achinam, c'est la haine de ce qui m'a été donné gratuitement. Or, qu'est-ce qui m'a été donné gratuitement, Maneshama? Donc, quand j'ai de la sinat achinam, c'est que je n'aime pas ma propre âme. Je suis obligé d'aller chercher autre chose parce que je ne m'auto-suffis pas. C'est une maladie mentale, psychique. C'est la haine de soi, de son identité. À tel point que tu ne sèmes rien sur toi, tu préfères savoir ce qui se passe chez les nations du monde. Tu ne comprends rien de toi-même, de ta propre vie. Ça, c'est une atrina. Donc, quand je te hais, c'est que je hais la neshama qui t'a été donnée gratuite, Rav de Shalom. Il n'y a pas pire que ça. Et si je savais que toi et moi, nous étions un, avec tous ceux qui sont ici et tout notre peuple, nous étions une seule et même unité, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est qu'on ne sait pas décoder l'intériorité, donc on ne voit que la superficialité. Or, elle est différente de moi, je le vois bien. Donc, je la repousse. C'est pour ça que le temple a été repoussé comme une chair qui a été greffée dans le monde et qui ne peut pas tenir. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois le temple est repoussé, rejeté, comme un corps étranger.
Exactement. C'est pour ça que ce qui se passe maintenant contre les partis politiques me font penser à cette situation.
C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ce sont des discussions pour améliorer les choses. Et ça, je peux avoir des discussions. La vaccination, c'est pas « je vous aime, on est tous d'accord ». Pas du tout. Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais je t'aime. Mais toi, tu vas dire ta façon de voir, et moi, je vais dire ma façon de voir, et on va construire quelque chose au milieu. Ça, c'est le véritable shalom. Aujourd'hui, tout le monde est tombé encore dans ce piège-là où tout le monde doit être d'accord. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas une plus grande bénédiction qu'une dispute entre deux grands rabbins, dans le sens de la Torah. Parce que chacun ne se dispute pas pour son ego. Il se dispute pour révéler les valeurs de l'infini dans ce monde. Ça, c'est un autre niveau. Et donc, tout est erroné, tout est dévoyé. Donc, c'est un cri d'alarme que je vous pousse un petit peu ici aujourd'hui, parce que j'en ai marre de ces 17 amours, de ces 9 aves et de kabab et tous ces machins-là, qui sont dans le premier sens, dans au ras des pâquerettes. Il faut arrêter, il faut comprendre le sens des choses. Tu montes le grade là.
Oui, il y a des gens dans les sièges dans le monde.
Ok.
Je peux aussi te demander
Quel?
Tu peux répéter la question.
Il faut que j'entende d'abord. Les peuples, de quel peuple? Mais tu vous me dis que tous les peuples. Non, les juifs qui ont été dispersés. Je suis d'accord. Je vous l'ai déjà dit dans un autre cours où j'étais ailleurs. Nous sommes dans le plus grand hôpital ici. Nous sommes dans le grand hôpital parce que nous sommes revenus de toutes les nations dans lesquelles nous étions malades pendant 2000 ans. Alors nous avons un temps de guérison, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça n'enlève rien au fait que nous devons étudier ce vers quoi nous devons aller. Si je ne donne pas un sens à mes élèves, où voulez-vous qu'ils aillent? Si mes élèves n'ont pas de sens, et si le seul sens que je leur donne est un non-sens, parce que je leur dis seulement de mettre les filines, je leur mens à ces élèves. C'est parce que Dieu m'a demandé. Dieu m'a demandé de venir sur la terre. Pourquoi je ne le dis pas à mes élèves? Pourquoi je leur mens? Pourquoi je continue à perpétuer un exil, un juif de l'exil? Pourquoi? Pourquoi je fais un forum de plein de rabbins à Paris pour dire que c'est interdit de manger en Israël, comme ça s'est passé il y a un mois? Pourquoi? C'est ce que dit le Zohar, parce que c'est un bon business. C'est ce que le Zohar nous dit, qu'ils avaient peur de perdre leur place. C'est très grave. Alors qui je suis moi pour dire ces choses-là? Moi je ne suis rien du tout. Je lis la Torah. Tout simplement, la Torah est claire. Ce ne sont pas des commentaires, ça. Il n'y a pas pire que les commentaires. Parce que c'est là où tu te tais complètement. Tu apprends comment se taire. Étudie. Étudie les bases des choses. Tu ouvres un livre, vous étudiez la Torah, vous ouvrez la Bible, votre Bible. Vous lisez des tonnes de livres. Il n'y a pas une Bible. Vous ne savez même pas votre propre histoire. Si je vous demande qui était, je ne sais pas moi, Naama, vous ne savez même pas qui c'était. C'est terrible. Alors c'est sûr, bon, vous jouez. Si je veux vraiment vous piéger, je vous pose autre chose.
Déjà,
je dis, laisse tomber. Moi, je ne savais pas, moi. Mais faites attention, c'est vrai. Alors c'est bien de pleurer sur la destruction du temple, c'est bien de pleurer sur les tables qui se sont cassées, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour réparer ça? Vous savez comment on répare une table cassée? En étudiant. C'est tout, on reçoit la Torah. T'as pas voulu la recevoir, reçois-la aujourd'hui. Le 17 Tammuz, vous avez étudié? Non. Un petit peu. Sympathique. Mais si je veux corriger quelque chose, alors toutes ces valeurs, c'est sûr que ça fait un petit peu « Waouh, qu'est-ce qu'il est venu nous mettre sur la tête aujourd'hui ?» Moi, j'étais tranquille avec mon petit cardade, ma petite coutume, je mangeais des lentilles tranquillement. Vous savez quoi? Arrêtez avec ça, arrêtez. C'est pas ça le sens des choses, Rabotai. C'est dommage de rater, ça fait 2000 ans qu'on est en train de nous perdre dans ces petits degrés, alors qu'on a oublié l'essentiel.
Alors on ne gêne pas.
C'est tout ce qui nous intéresse. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire qui va un petit peu dans le sens de ce que je dis. L'histoire de Hanouka. L'histoire de Hanouka. Comment est-ce que la révolte des Hashmonaïm a commencé? Vous savez comment? Par une femme. Une femme. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Elle s'est déshabillée. Tout simplement. Elle est arrivée dans son propre mariage, la Kala. Elle a dit, regardez-moi tous. Elle est montée sur la table et elle s'est déniée. Oh! Aïssa! Siout! Siout! Hein? Elle a dit à tous les religieux qui étaient là-bas, c'est ça qui vous dérange, hein, de voir une femme nue.
Il y en a une qui a fait ça à Jérusalem.
Non, c'est autre chose. C'est ça qui vous dérange, c'est de voir une femme nue. Mais vous avez oublié que ce soir, avant d'aller avec mon mari, je devais aller avec lui. Avec le vice-roi de mon quartier. Ça ne vous dérange pas, ça. vous avez trouvé une combine de la halakha pour m'autoriser à être après à mon mari après avoir été avec un autre homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, dans le judaïsme, on est tellement dans la halakha, tellement dans le inyan, qu'on comprend même pas le sens large des choses. Korach, vous savez pourquoi il ne s'est pas approché d'une certaine maison? Parce que la femme a enlevé son tissu roche. Alors ils étaient très religieux, ils ont dit on ne peut pas s'approcher de cette femme-là. Baruch HaShem, elle a sauvé son mari. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous sommes tombés dans la religiosité et qu'il faut qu'on récupère le véritable sens de ce qui a été perdu dans notre identité. Et nous avons perdu de grandes choses. Et aujourd'hui, on s'occupe de petites choses. On s'occupe de la longueur des manches, on s'occupe de plein de choses. C'est important, mais c'est pas ça aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est tellement grand et toi tu es en train de t'occuper de la salade que tu as dans ton assiette.
Je dois trouver des rabbins qui ont fait une salade.
Voilà, tu trouves moi.
D'accord.
Viens au Mahon Meir. Viens au Mahon Meir. Écoutez le Mahon Meir, il y a 2 ou 3 millions de cours en ligne. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est la plus grande yeshiva au monde au niveau internet, au niveau média. Des millions de cours en ligne, et tout le monde parle comme moi là-bas. Ne dites pas, on ne peut pas aujourd'hui, c'est fini. Alors si vous attendez quelqu'un qui vous vienne ici chez monsieur et madame Lévy, alors c'est sûr que peut-être il n'y a pas, je ne sais pas. Mais aujourd'hui vous pouvez, tout est accessible.
D'accord. Au début, on a vécu ça.
C'est pas dingue.
Depuis très
longtemps.
Et quand nous, on vient ici, on trouve de l'autre.
C'est-à-dire
c'est
D'accord. On nous met tous dans des tiroirs. Tout à fait. Tout à fait.
Pour moi, par exemple, je souffre beaucoup.
Moi aussi, je souffre. Moi aussi, je souffre.
C'est comme rétrograde.
Tout à fait. Moi aussi, je ne supporte pas qu'on me mette dans un tiroir. Je ne suis pas dans un tiroir. Je ne veux pas ressembler à un tiroir, à une manière de montrer. Arrêtez. Combien de fois je rentre dans une pièce, on ne regarde même pas parce que je n'ai pas l'allure. Quelqu'un qui a fait Tchouva, il n'y a même pas 2 semaines, qui ne connaît rien du tout, mais il a une barbe, un machin, et quoi, un truc, c'est oh, le rap, c'est qui ce rap? Voilà le monde dans lequel aujourd'hui on est. C'est un monde de mensonges. Alma de Shikra. C'est comme ça que ça marche. Il faut faire très attention à ça. J'ai même pas commencé mon cours. Je vous jure que c'est vrai. J'ai énoncé ce qui a marqué. Regardez, j'ai même pas tourné la première page. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, l'essence, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce zboul, dans ce quatrième ciel, à partir du nôtre? Eh bien, il y a en réalité la Jérusalem d'en haut. Qu'est-ce que c'est que la Jérusalem d'en haut? La Jérusalem d'en haut, c'est en réalité le modèle de ce que doit être un jour la Jérusalem d'en bas. Mais vous connaissez le modèle? Vous l'avez étudié, ce modèle? C'est-à-dire, si tu ne connais pas le nom de ce ciel, il s'appelle zboul, qui comme par hasard a en valeur numérique 45 comme la Géoula, et qui ne sait pas ce qui se passe dans cette Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire le modèle initial, comment toi tu veux imiter ce modèle dans ton monde d'en bas? Comment? Donc je dois étudier ce qui se passe dans ce ciel qui s'appelle Zvoul, qui est en l'occurrence le quatrième ciel. Et pourquoi? Parce qu'il correspond à la quatrième sphère à partir d'en bas, c'est-à-dire l'éternité. Donc si je ne sais pas ce que c'est que l'éternité, si je ne sais pas ce que c'est que Jérusalem d'en haut, si je ne sais pas ce que c'est que le Mizbeach d'en haut, si je ne connais pas Michael qui est l'ange qui fait monter les Neshamot des Tzadikim, qu'est-ce que je fais dans la Jérusalem d'en bas? C'est quoi? C'est une ville? Je monte en voiture, il y a marqué Welcome to Jérusalem, c'est ça? Il faut que vous ayez un étalon, il faut que vous ayez un modèle à imiter. Eh bien, ce ciel-là qui s'appelle Zvoul, c'est le ciel à imiter pour transformer ce ciel en réalité terrestre. Là, je peux dire que je fais quelque chose pour mon peuple, pour ma nation, et pour reconstruire le troisième temple. Sinon, eh bien, il y a un statu quo, on a peur de le boucher. Il y a 3 jours, on a tué 2 policiers, et immédiatement, on a tellement peur, on dit, non, on ne peut pas bouger de ce qui se passe là-bas, ne vous inquiétez pas, je vous exagère volontairement. On ne peut pas construire le troisième temple. Vous savez pourquoi nous aussi on a une trouille? Mais oui. On a la trouille du troisième temple. Nous-mêmes, on a la trouille du troisième temple. On ne sait même pas ce que ça veut dire. On se dit, les nations du monde, mais qu'est-ce qu'elles vont dire? C'est tout ce qui nous intéresse. On n'a pas compris le sens. La Gemara dit, si les nations du monde savaient la bénédiction qui leur viendrait lorsque le temple de Jérusalem sera construit, elles auraient donné tout leur or et leur argent pour qu'on le construise. Tellement il y aura de bénédictions dans le monde. Alors aujourd'hui, tout est confiné, tout est petit, tout est restreint, tout est étriqué, tout est dans la peur de ne pas changer parce que chaque petit mouvement, ça va faire je sais quoi.
Il doit être un problème de leader.
C'est pas un problème de leader. On a le leader qu'on mérite par rapport au peuple. Le leader, il vient pas tout seul. C'est toi qui l'as mis en place, avec moi. Si on mérite un leader beaucoup plus fort, eh bien on aura un leader encore plus fort que ce qu'il y a aujourd'hui. Et je vais te dire, c'est pas le plus mauvais qu'on a aujourd'hui. On aurait pu avoir pire. Chas v'shalom. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. Il faut plus jeter le problème chez l'autre. Moi, je dis, moi, Yoël, le problème, il est chez moi. Chez moi, Yoël, je vous dis même pas à vous, il est chez moi. C'est moi le problème. C'est moi le problème parce que j'enseigne pas comme il faut. Parce que la preuve, c'est que peut-être ça passe pas comme il faut. Parce que, justement, les gens n'ont pas assez de cours dans ce sens-là. Parce qu'ils n'ont pas, je sais pas. Mais je me prends la responsabilité sur moi et j'essaie de me corriger. Je ne mets pas la faute sur Benjamin Netanyahu ou sur quelqu'un d'autre.
Maintenant, ma grand-mère a un cours là, sur Yerushalayim, d'en haut, le Céleste.
Mais pas un cours, non, il y a au moins 10 000.
1 million de cas, mais je veux dire, c'est ce que j'ai là.
Oui.
Et oui, si je mets,
tu rentres ma grand-mère, tu as tous les cours sur ce que tu
mets celui-là.
Celui-là. Tu marches Yom Yerushalayim, ouais. Et tu vas voir là-bas des tonnes de cours sur qu'est-ce que c'est que la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Qu'est-ce que c'est Rachel et Léa? Qu'est-ce que c'est toutes ces notions de Kabbalah qui sont liées à ça? Et tout ça c'est la Malchus, tout ça c'est la réunification de la royauté d'Israël. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est difficile parce que même les gens quand ils étudient, ils se disent « Ouais, il faut qu'on ait un petit peu plus de ça, un petit peu plus de ça, ce sujet je le connais, ce sujet je le connais pas. » Qu'est-ce que tu connais, mais qu'est-ce que tu connais? Ça me tue de rire, moi, quand j'arrive à un cours et on me dit « De quoi tu vas parler ?» Je dis par exemple de Yéme Ben Ametarim, comme le sujet d'Orduran. Ah oui, on l'a déjà étudié l'année dernière. J'ai vu le film, mais arrêtez.
Quand Chaya est prévenu.
Mais arrêtez! Qu'est-ce que t'as vu? Chaque cours, c'est encore un monde, un univers énorme. C'est différent. En Bet Midrash Bichidouch. Et il faut faire très attention. Très attention de quoi? De ne pas rester au niveau de la Torah seulement. La Torah, elle a un sens, elle a une réalisation. La réalisation s'appelle Malchut. Dans la notion de Kabbalah. Malchut. Malchut qui, en réalité, la traduction des valeurs du ciel dans une réalité politique, avec un roi, avec une monnaie, avec une infrastructure politique, une infrastructure médiatique, une infrastructure économique. Ça, c'est le royaume de Dieu sur terre. Vous croyez qu'on va rester des planeurs, des étudiants de Torah? C'est pas ça le but. C'est que la Torah rentre dans la politique, dans la monnaie, dans tout, dans la culture, et qu'on fasse de notre vie ce degré-là. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Moi, je suis artiste peintre. Qu'est-ce que je peux faire dans mes peintures? Eh bien, je vais rentrer des notions cachées à l'intérieur du sens de mes toiles. C'est tout ce que je peux faire. Et quand je vais aller dans une exposition où personne n'arrivera à une yeshiva dans ces expositions, c'est sûr, eh bien, je vais expliquer une toile avec les valeurs de ce que j'ai voulu introduire à l'intérieur. Et d'un coup, tu vas voir des gens qui vont dire, waouh, on ne savait pas que ça existait, bien sûr. Je ne peux pas t'attendre à l'échiva, tu ne viendras jamais. Alors, je viens te voir dans une exposition bien guindée, machin, style, avec un petit verre de champagne à la main. Ça, c'est sympathique. Mais c'est la même chose.
Ça vient, mais lentement.
Nachon. Baruch Hashem en a changé. Alors, Baruch Hashem, on est déjà sur terre. On a corrigé déjà. On a corrigé déjà la première défaut. Donc, ça veut dire que le jour de Tisha B'Av n'est plus aussi lourd que ce qu'il était auparavant. C'est plus la même souffrance. C'est sûr qu'il n'y a pas encore le temple. Mais on a fait quand même un grand pas. Le peuple est en train de revenir sur sa terre. Donc, ne vous n'ayez pas de mauvaise conscience si Tisha B'Av, vous ne sentez pas la lourdeur que vous sentiez il y a 50 ans. D'accord ? Quand je vais au côté le jour de Tisha B'Av et que je vois des jeunes chanter avec des guitares à la main, je suis heureux. Ça veut dire qu'ils sont là, ils sont venus à Tisha B'Av, mais ils n'ont pas le pleur qu'on avait il y a 2000 ans. Parce qu'ils sont devant le côté. Ils ont une armée, ils ont une infrastructure, ils ont une économie, ils ont des start-up de tous les coins de rue. Vous pouvez me dire que c'est la même Israël qu'avant ? Non ! Il y a une réalité qui change. Donc moi aussi je dois changer au niveau de mon esprit de Torah. La Torah c'est pas des bouquins, la Torah c'est pas des lettres à faire des mouvements et des machins. La Torah c'est une vie. Et je dois être cohérent avec la vie qu'il y a aujourd'hui. Si je vois que mon pays se développe, si je vois que mon pays a une bénédiction dans le monde, si je vois que les nations du monde nous respectent, regardez comment le roi d'Inde nous respecte. Regardez ce qu'ils sont en train de faire de nous. On enseigne la Gemara en Corée du Nord.
Du Sud.
Du Sud. Bientôt c'est le Mahabol. C'est Kavod. C'est ça. Tiens, attends.
Yoël, les choses changent dans l'idée. Dans ma jeunesse, je me souviens, ma mère nous défendait.
Chaque fois que tu parles, j'ai le temps de regarder un truc.
Ma mère nous défendait d'aller nager. Parce que vous pouvez se voyager à Tisha
B'Av. Aïe. C'est tellement énorme. J'ai passé un temps fou pour écrire, et j'arrive même pas à sortir. C'est même pas ça, c'est qu'il faut s'asseoir, il faut distribuer un texte, il faut étudier les choses. C'est dur pour moi une conférence. Parce que je suis en train de vous jeter des notions comme ça, alors que si on était avec un petit texte de rien du tout, en prenant un petit mot autour d'une table, et qu'on pense à disséquer le texte, vous aurez vu la beauté de la Torah. Mais là, je vous donne une conférence. Ça fait un peu style, je vous ai sorti des choses à droite à gauche. Je vous garantis que ça a une assise dans la Torah, dans la Gemara, dans toutes les références. Mais je suis obligé, parce que c'est difficile pour vous encore l'hébreu et tout ça, de faire de cette manière-là. Mais sachez qu'il y a des références à tout ce que je vous dis. Aujourd'hui, si on a le courage, dans quelques temps, on va refonder le Sanhédrin. Refonder le Sanhédrin, c'est des gens pour parler. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Il y aura des rabbinim courageux qui vont prendre les choses en main. Et beaucoup de choses vont changer. Vous savez qu'un jour, on n'a pas jeûné Yom HaKippourim. Toute la nation, on a décidé de ne pas jeûner. Pourquoi ? Parce qu'on a construit le temple. Le jour où on a construit le temple, le roi Salomon a dit, pendant les 13 jours de joie qui ont précédé, on ne jeûne pas Yom HaKippourim. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de faute. Regardez le courage du roi d'Israël, ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, tu ne jeûnes pas le 9 avril, il va te frapper. S'il ne m'empêche pas d'être malheureux, j'ai envie de rester comme ça toute ma vie. Mais c'est pas ça le judaïsme. n'achète même pas une Megillah de Echa, n'achète pas, n'investit pas là-dedans, n'investissez pas dans le jeûne, n'investissez pas dans le deuil, investissez dans la vie. Et tout ça, ça doit changer. Alors certes, il faut du courage, mais Baruch Hashem, les choses sont en train de changer. Alors, comme je vous l'ai dit, je n'ai même pas parlé de rien du tout. Maman, rien du tout. Je vais clôturer un petit peu avec une phrase. La distance entre la sortie d'Égypte et l'entrée à Jérusalem est beaucoup plus grande que ce qu'on croit. C'est-à-dire, si vous regardez au niveau kilomètre, c'est rien, l'Égypte de Jérusalem. C'est 11 jours, c'est fini pour un peuple. Regardez combien de millénaires ça nous a pris. Ça nous a pris des millénaires pour sortir d'Égypte et pour arriver à Yerushalayim. Ça veut dire quoi? C'est une notion de l'esprit. Quand est-ce que tu as décidé de sortir de ta propre prison? Et un jour, tu arriveras à ta véritable Jérusalem. Et ça, c'est le sens de la reconstruction du temple. Si vous voulez un petit peu plus, on va changer. Je ne vais pas reparler des mêmes choses, bien entendu. La semaine prochaine, je donnerai un cours à Natania sur le même sujet de Tisha B'Av, mais sous une autre forme, bien entendu, mercredi soir prochain, au centre Rachid, qui est au coin là-bas, où il y a les musiciens là en fait, la culture. Bézat Hashem, on essaiera de développer un petit peu plus. J'essaierai peut-être d'apporter un texte, un petit texte, pour qu'on étudie quelque chose sur texte. Ça devient un petit peu plus sérieux. Et je pèse aussi de le faire ici, à la rentrée, parce que les cours s'arrêtent pendant l'été ici. Donc on va reprendre les options pendant la rentrée. Je vais peut-être, les prochains cours, apporter un petit texte, on va le développer ensemble. Et vous allez voir la beauté de la Torah. Et si vous avez une correction à faire aujourd'hui dans votre vie, c'est que mettez un petit peu les bouquins que vous avez l'habitude de lire un tout petit peu de côté et commencez à ouvrir aussi votre propre culture. Ça va, Rabat.
Merci.
Pas qu'ils n'ont pas de valeur. Leur véritable valeur, c'est quand ils arriveront ici. Alors ils font ce qu'ils peuvent.